Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Bonjour chères auditrices, chers auditeurs et bienvenue à vous dans ce nouveau podcast replay du live Twitch « Comment trouver son premier emploi ». Petit rappel, chez Mademoiselle, on vous offre 2 lives par semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch. Faire son entrée sur le marché du travail n'est pas chose facile en temps normal, mais avec la crise sanitaire, ça ne s'arrange pas. Donc histoire d'éclaircir un peu les choses, Clémence, rédac chef chez Rocky, reçoit pour vous 3 invités. Laure et Romain, jeunes adultes à la recherche d'un premier travail, et Mathilde, conseillère chez Pôle emploi. Comment rédige-t-on un CV? Quel profil convient le plus aux employeurs? Comment combattre les discriminations à l'embauche? Je vous laisse en compagnie de Clémence pour obtenir des réponses à vos interrogations.
Être à la fin du live. bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très contente d'être là ce soir, enfin, de pouvoir vous parler et pas seulement vous faire des grands gestes désespérés. Aujourd'hui, on va parler d'emploi et de comment en trouver un, surtout quand c'est le premier et qu'on débarque dans la vie active après un diplôme ou pas. Mais peut-être avant de commencer, je vais me présenter et si vous avez envie de vous présentez aussi dans le chat, de me dire qui vous êtes, ce que vous cherchez comme boulot, là où vous en êtes dans votre vie, ou juste si vous avez passé une bonne journée ou une mauvaise, allez-y, faites-vous plaisir. Donc moi je suis Clémence, la rédac chef de Rocky, et pour les personnes qui connaissent pas Rocky, déjà c'est pas bien, allez regarder, www.rockymag.com. Et ensuite je vais quand même vous faire un petit résumé parce que je suis sympa, mais Rocky c'est un magazine pour les mademoiselles qui ont grandi, donc c'est un, on va dire que mademoiselle ça s'adresse plutôt aux lycéennes et aux étudiantes, même si on peut lire mademoiselle à tout âge, et Rocky ça s'adresse plutôt aux personnes qui ont plus de 25 ans et qui sont dans la vie active. Et en fait, avant de lancer le magazine Rocky il y a 2 ans, moi j'ai eu une autre vie de journaliste et j'ai lancé un média sur l'emploi des jeunes qui s'appelle les EcoStarts. Et donc je connais bien ces sujets-là et donc c'est pour ça que Marie m'a demandé d'animer le live ce soir. Et je suis très contente, voilà. Même si je me sens un petit peu boomer parce que c'est la première fois que je suis sur Twitch, n'est-ce pas? On va attendre encore un tout petit peu, puis ensuite on demandera à nos invités de nous rejoindre, parce que ce soir je vais pas être toute seule pour vous parler de recherche d'emploi. J'ai fait appel à une experte, bien plus experte que moi, qui s'appelle Mathilde, qui est très cool, vous allez voir, et qui bosse dans une mission locale, donc qui en fait tous les jours accompagne des jeunes qui cherchent un boulot. Donc voilà, je ne sais pas trop s'il y a beaucoup de personnes qui cherchent du boulot dans le chat, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un petit peu les questions que vous avez. Moi, je vais essayer au fur et à mesure d'y répondre et de demander à Mathilde d'y répondre. On a aussi des jeunes qui vont venir. Je dis des jeunes parce que je suis vieille. Non, c'est pas vrai. Je suis pas si vieille. Je suis un peu plus vieille, mais pas si vieille. Donc il y a des personnes qui vont venir raconter leur recherche d'emploi pendant ce live, un peu en format radio libre, et qui poseront des questions, et Mathilde pourra les conseiller avec son regard de conseillère emploi à la mission locale. Donc ça va être chouette. Mais si vous avez des questions, on me dit j'ai ma soutenance de master mardi. Eh bien, force à toi, et courage. Ouais, c'est un grand moment, la soutenance de master, mais ça va bien se passer. Et si tu veux des conseils, on peut. Alors, il y a Clara qui dit « Étudiante en école d'ingé, diplômée l'année prochaine. Bientôt sur marché du travail. » Yes. Et sur une année un peu particulière, je pense. Grizzly, un entretien Pôle emploi demain. Ok, cool. Ouais, donc je disais, l'année est un peu spéciale. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu envie de faire ce live sur la chaîne Twitch de Mademoiselle. Parce que le Covid, Hein, donc c'est une année spéciale à plein de points de vue. Voilà, bah exactement, c'est le cas de Louise là, dans le chat qui dit que, qu'elle avait un poste en Inde et puis Covid, bah ouais, c'est la galère, hein. C'est clair. Et en fait, il y a plein de personnes qui sont arrivées sur le marché de l'emploi ou qui vont arriver sur le marché de l'emploi et des entreprises à côté qui sont un peu frileuses en mode bah peut-être qu'on va avoir une petite crise économique dans la gueule donc embaucher des gens pas sûr. Donc forcément, je comprends que ça inquiète. Après, la bonne nouvelle, c'est que il y a eu des trucs qui ont été mis en place par le gouvernement pour soutenir l'emploi des jeunes et ça a l'air de marcher d'après les chiffres du gouvernement. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que bah on est là pour vous filer des conseils et des astuces. Alors, on dit pleine recherche pour un poste dans la culture. Ah ouais, ouais, c'est clair que c'est galère. Il y a vraiment des secteurs sinistrés en ce moment. L'hôtellerie-restauration, le tourisme, la culture, l'événementiel. Tout ça, c'est effectivement encore plus compliqué dans ces secteurs-là. Après, faut se dire que ça va repartir. Mais la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on peut mettre en place en attendant. Mais on va en reparler avec Mathilde. Les aides du gouvernement ne marchent que jusqu'à 25 et j'en ai 26, c'est génial. Ouais, effectivement, c'est emploi des jeunes. D'après le gouvernement, on est plus jeune après 25 ans. La bonne nouvelle, c'est que à partir de 25 ans, on peut avoir le RSA. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Effectivement, il y a un truc un peu chaud à négocier sur le passage des 25 ans. Puis après, il y a le passage des 27 ans et la fin de la carte jeune à la SNCF. Et là, vraiment, c'est très dur. Bon, j'arrête de faire des blagues et on va peut-être proposer à Mathilde de me rejoindre. Salut Mathilde.
Bonjour.
Mathilde, peut-être est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est qu'une mission locale et ce que tu y fais? Parce que je ne sais pas si tout le monde connaît les missions locales.
Oui, je vais expliquer parce que c'est vrai qu'on est un peu... On est soit méconnu, soit mal connu. En fait, une mission locale, c'est une asso qui a pour but d'accompagner les jeunes, donc en priorité sur tout ce qui est emploi-formation, mais aussi sur plein d'autres volets, donc par exemple l'accès aux droits, on peut faire des aides financières, tout ce qui est accès à la culture, à la citoyenneté, via le service civique, accès à la santé. En gros, c'est une asso un peu... c'est un peu un lieu repère pour toutes les personnes qui ont moins de 25 ans et un lieu repère pour toutes les facettes de la vie.
Ok, voilà. Et du coup, toi, au quotidien, ça veut dire ça ressemble à quoi ton boulot à la mission locale?
Moi, personnellement, je suis conseillère emploi, donc ma spécialité, ça va être l'emploi, emploi-formation, donc pour les personnes qui sont en recherche. Et je m'occupe d'un espace donc qui s'appelle Espace Interactif, et qui est en gros un peu comme un cybercafé avec des ordinateurs. Les personnes viennent pour effectuer leur démarche, et nous, on est donc une équipe de 4. Il y a moi, 2 services civiques et une personne en alternance. Et notre job, c'est d'accompagner, de les aider à faire les CV, les candidatures, les mails aux employeurs, les lettres de motivation. On fait un peu ça au quotidien.
Ok. Pour commencer, j'ai vu qu'il y avait une question dans le chat et je me suis dit que voilà, j'allais te lancer là-dessus tout de suite à chaud, qui était est-ce que vous avez des tips pour relancer une entreprise après une candidature? Et ça, c'est un truc que je pense qu'on connaît pas, qu'on sait pas toujours, auquel on pense pas toujours, mais en fait, c'est important de relancer.
Alors, des tips, il y en a pas spécialement. Après, faut juste prendre son courage à deux mains et décrocher son téléphone.
Tu conseilles de le faire par téléphone, pas forcément par mail?
Par téléphone, c'est bien, par mail aussi. Faut pas attendre, faut pas le faire trop rapidement, la relance. En général, faut laisser quand même une petite semaine à l'employeur, parce que si on relance 2 jours après, il va dire, bah, c'est bon, laisse-moi le temps, j'ai pas encore fini de rencontrer tout le monde. Au bout d'une semaine, c'est bien. C'est dire, coucou, je suis encore là, où est-ce que t'en es dans tes recrutements? Et par téléphone, c'est bien parce qu'on peut avoir une réponse directe. Donc voilà, on va le déranger un petit peu dans sa journée par téléphone, alors que par mail, il peut dire et voir le mail et dire oh, j'y répondrai plus tard.
Ok. Donc ça, c'est après avoir envoyé une candidature. Donc ouais, une semaine, 2 semaines après, on rappelle si on a réussi à trouver un numéro de téléphone, parce que parfois c'est pas toujours évident, c'est pas toujours affiché dans les annonces, mais on peut appeler au standard de l'entreprise.
Ouais, on peut appeler le standard. Après, moi j'ai une petite technique de filoute, c'est d'aller voir sur LinkedIn. Donc si on sait pas qui est la personne qui s'occupe des recrutements, on va voir l'entreprise sur LinkedIn, puis les salariés, et dans les salariés on va voir un peu les fonctions de chacun. Ah ben lui il travaille au RH, hop je vais lui envoyer un petit message. Voilà, ça fait un peu forceur, mais ça peut marcher.
Du coup, ouais, tu dis ça fait un peu forceur, mais ça montre aussi qu'on est motivé, non? Donc ça plaît aux entreprises.
Puis un petit message sur LinkedIn, c'est pas du harcèlement, ça va.
OK, 10 petits messages sur LinkedIn là par contre.
Voilà, c'est ça.
Ok, j'aurais bien aimé pour commencer qu'on parle peut-être un peu ensemble de la garantie jeune, qui est un dispositif qui, je trouve, est pas très connu et c'est dommage. C'est l'émission locale qui porte ce dispositif.
Oui, c'est porté par l'émission locale. En gros, c'est donc à destination des personnes de 16 à 25 ans. Donc après, en général, c'est plus pour les personnes qui sont majeures. C'est à destination des personnes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni scolarisées et qui sont autonomes fiscalement. Donc si on rentre en garantie jeune, ça veut dire qu'on est plus sur le foyer fiscal de ses parents. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et c'est un dispositif qui permet de bénéficier d'une allocation qui est à peu près la même chose que le RSA. Mais c'est sous justificatif de démarche de recherche d'emploi. Donc il y a beaucoup de temps collectif au début du dispositif, avec pas mal d'ateliers. Donc il y a des ateliers sur les CV, les lettres de motivation, sur les entretiens d'embauche. Après, il y a des temps un petit peu plus conviviaux. Il y a pas mal d'intervenants aussi qui vont venir pour expliquer ce qu'ils font. Parfois, enfin, après, ça va dépendre des missions locales aussi, hein. Chaque mission locale fera un petit peu à sa sauce. Mais voilà, c'est axé sur des moments collectifs, une recherche d'emploi booster à fond, et du coup en retour on a une allocation.
Et ça, du coup, pour en bénéficier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rendre dans une mission locale.
En mission locale, on se rend à la mission locale et on pose la question au conseiller qu'on rencontre, parce qu'en fonction de la situation de chaque personne, c'est pas toujours pertinent la garantie jeune.
Ok, et alors petite question naïve, vous êtes ouvert en ce moment par rapport au Covid et couvre-feu, confinement, déconfinement, confinement. Est-ce que vous restez ouvert?
On n'était déjà pas ouvert après 18h avant, donc là-dessus, ça change pas grand-chose. Mais oui, on est ouvert. On était ouvert même pendant le confinement, puisqu'on est un guichet de service public dont la promesse de Monsieur le Président était qu'on reste ouvert. On a pas mal de télétravail, donc on propose en fait une partie de l'accompagnement en présentiel et une partie de l'accompagnement à distance. Pour les personnes qui sont pas équipées au niveau numérique, bah forcément, ils font que du présentiel.
Ok, mais donc ça veut dire que c'est possible aussi de contacter à distance une mission locale. On peut téléphoner, envoyer des mails.
Je peux pas me porter
pour toutes les missions.
Enfin, pour parler de toutes les missions locales, mais en tout cas à Lille, c'est ce qu'on a fait. On peut contacter à distance. On a équipé tous les conseillers de téléphone portable pro. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de les joindre. Il y a certains conseillers qui font des entretiens à distance pour pouvoir permettre aux gens d'être reçus sans forcément sortir de chez eux.
Et pour trouver la mission locale la plus proche de chez soi, on peut trouver cette info sur Google, j'imagine.
Assez facilement, ouais. Si on a du mal à trouver sur Google, il y a le site de l'Union Nationale des Missions Locales, donc il y a une asso qui les met en réseau, qui a un annuaire sur son site.
Ok, alors du coup, on vous a demandé dans le chat si vous connaissiez la garantie jeune. Les trois quarts ne connaissaient pas, donc ça montre bien que le dispositif est pas très connu. Pourquoi tu penses qu'il est pas très connu, ce dispositif, Mathilde?
J'en ai aucune idée. Je pense que c'est après on fait. Il y a peut-être pas suffisamment de pub qui se fait là-dessus. Après, c'est beaucoup de bouche à oreille, hein, les gens qui viennent à la mission locale et à la garantie jeune. Sachant que la garantie jeune, c'est pas la seule chose qui est proposée par les missions locales, et que quand on va se rendre en disant bonjour, je voudrais faire la garantie jeune, faut aussi écouter la personne qui va nous recevoir et qui va dire ben je pense que pour toi la garantie jeune c'est peut-être pas l'idéal. Vaut mieux que tu te vers un autre dispositif. Il ne faut pas se fermer à tout le reste, parce que c'est pas le seul service proposé, en fait.
Justement, il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'il a été suivi par la mission locale dans le temps, mais que comme il avait un BTS, il se sentait un peu trop diplômé et qu'il n'avait pas eu forcément de suivi. C'est vrai que moi, c'est un peu un a priori que j'ai sur les missions locales, de me dire que c'est plutôt pour des personnes peu diplômées ou pas diplômées. Mais
c'est un a priori qui existe beaucoup, mais ça, c'est justement un a priori contre lequel on essaye de lutter. Enfin, n'importe qui peut rentrer en mission locale. Alors, il y aura peut-être moins d'offres d'emploi directement, parce que la plupart des offres d'emploi qui sont proposées dans les missions locales vont être à destination des personnes moins diplômées, mais... Enfin, voilà, on a des choses à proposer à tout le monde. Si c'est pas forcément sur l'emploi parce que l'offre de service s'y prête pas, ça va être sur d'autres volets et ça va être aussi pas forcément sur des offres, mais voilà, une relecture du CV, un peu de coaching, un peu de soutien.
Oui, de pas être.
Il y a plein de choses qu'on peut apporter.
Ouais, de pas être seul face à la recherche d'emploi. Parce que ça, c'est. Enfin, dites-nous hein, dans le chat, comment vous le vivez. Mais chercher un boulot, c'est compliqué. Parce qu'on est souvent, encore plus en ce moment, seul face à son ordinateur, à envoyer des CV, à pas avoir de réponse. Et les journées sont à la fois longues et difficiles, quoi. Donc, effectivement, le fait d'être suivi par une personne réelle via la mission locale, ça peut aider.
C'est ça. Oui, et puis d'obtenir des conseils. Après, c'est pas parce que on a plein de diplômes qu'on a rien à apprendre, même sur sa recherche d'emploi.
Alors, il y a quelqu'un d'autre qui réagit dans le chat en disant que quand on a des diplômes à Pôle emploi, on est aussi un peu laissé seul, quoi. En mode, bon, bah, débrouillez-vous et rendez-vous dans un an. C'est pas le cas à la mission locale.
En tout cas, pas chez nous. Après, ouais. Voilà, je peux pas promettre de la part de toutes les missions locales. En tout cas, pas chez nous. On a une cellule spéciale avec une conseillère qui s'occupe de tous les jeunes diplômés. On a des offres exprès pour eux. Enfin, voilà, on a plein de choses à apporter. Après, je peux pas promettre de la part de toutes les autres missions locales. C'est vrai que quand une personne arrive avec un master sur un métier très spécifique, ben forcément, on n'aura pas toujours l'offre ou les contacts entreprises pile poil dans sa branche. Mais on voilà, et on a quand même, on peut faire de la mise en réseau. Donc moi, en plus de mes missions, par exemple, je m'occupe d'un réseau de bénévoles qui sont des parrains, qui sont des personnes qui viennent, qui sont managers, chefs d'entreprise, etc. Et souvent, ils donnent des petits coups de pouce aux personnes qui ont des diplômes. Voilà, on a plein, il y a plein de choses à proposer. Ah ouais, quand on a des diplômes.
Ouais, c'est super d'avoir du réseau, du coup, via la mission locale, ouais.
C'est ça. Parce que c'est vrai que quand on sort des études, le réseau, c'est ce qui pêche. Et ça, bah, la mission locale, elle, en général, ils connaissent les entreprises, ils connaissent du monde.
Il y a une autre ressource pour les jeunes diplômés qui est pas assez connue, je trouve. C'est l'APEC. L'association pour l'emploi des cadres. En fait, on se dit cadre et du coup, quand on vient d'avoir un diplôme, on pense pas forcément qu'on est concerné parce qu'on se voit pas cadre ou manager tout de suite. Mais en fait, c'est une association qui peut vraiment filer un coup de main pour les bac plus 5. Ça fait partie de leur mission et de leur boulot de vous accompagner. Et il y a plein de trucs sur le site, alors que ce soit un simulateur d'entretien, que ce soit des offres d'emploi. Il y a pas mal d'offres d'emploi pour cette catégorie, voilà, plutôt des jeunes bac plus 5. Mais il y a aussi des ateliers, il peut y avoir un suivi plus ou moins individualisé, mais ça peut être une bonne ressource.
Alors moi j'ai une petite remarque, vous parlez de toutes les missions locales, faites une généralité, alors que c'est pas le cas, peut-on avoir plus de précision ?
Oui, non, c'est ce qui me semblait, Mathilde, que tu disais que toi tu peux parler de ce que vous faites, voilà, dans la mission locale de Lille, mais que c'est plus compliqué, c'est de, voilà, de dire ce qui se passe dans toutes les missions locales, évidemment. Parce que c'est des missions locales qui sont autonomes, quoi, à chaque fois.
C'est même ça, si... en fait, chaque mission locale est une association différente, mise en réseau par... l'association dont on a donné le lien juste avant, mais chaque mission locale a sa façon de travailler et a ses façons de faire. Donc du coup, je peux pas parler au nom de toutes les missions locales au risque de dire n'importe quoi.
Une autre personne sur le chat qui dit que le déplacement en physique ne sert plus à grand chose, en tout cas pour les grosses entreprises, puisque quasiment toutes les offres sont gérées sur Internet. Ouais, ça c'est une question intéressante. Est-ce que ça vaut le coup d'aller taper à la porte des employeurs en direct? J'imagine que ça dépend un peu du type de boulot qu'on cherche.
C'est ça, ça va dépendre du secteur. Et c'est vrai que pour les grosses entreprises, on risque juste de tomber sur une agent d'accueil qui dira bah, le directeur est en rendez-vous. Mais pour tout ce qui va être PME, artisanat, les magasins, etc., c'est toujours bien de se déplacer. Et voilà, quelqu'un encore qui dit que c'est dommage qu'on n'en parle pas suffisamment. Il y a un gros travail de fait là-dessus.
Ouais, c'est pour ça que moi j'ai eu envie d'inviter Mathilde dans ce live pour aussi faire connaître l'émission locale. Ouais. Alors, il y a Sadines qui demande si on peut avoir des tips pour les candidatures spontanées.
Pour les candidatures spontanées, le gros tip, c'est de pas désespérer. Qu'en fait, les candidatures spontanées, elles ont tout le... Voilà, c'est un peu désespérant parce qu'on va en envoyer beaucoup pour peu de retours. Voilà, ça va être de faire des... Si tu fais des lettres de motivation, d'en faire des personnalisées. Donc, c'est beaucoup de temps pour peut-être pas beaucoup de résultats. Mais ça, il faut surtout l'avoir en tête au moment où on commence, en fait. C'est... Le type, ça va être quelque chose de bien, bien personnalisé au moment où tu l'envoies. Et peut-être essayer de bien fouiller sur Internet pour trouver la bonne personne à qui l'envoyer.
Est-ce que toi, tu conseilles de faire des candidatures spontanées ou c'est une perte de temps ?
Alors, c'est pas une perte de temps en soi parce qu'on peut trouver, mais après, voilà, c'est quand même peut-être mieux de se concentrer sur les offres. Et encore une fois, ça va dépendre des secteurs et ça va dépendre des milieux. Pour travailler dans les magasins ou dans les boulangeries, etc., là, la candidature spontanée où je me pointe à la porte, ça marche. Dans les restaurants, ça marchait, mais... Moi maintenant. Voilà, ça va dépendre encore une fois du secteur. Pour les grosses entreprises, les candidatures spontanées, c'est peut-être pas le top.
Ok, ou à moins de réussir à trouver le bon contact sur LinkedIn, le bon mail.
Le bon contact, ou alors souvent ils ont aussi dans leur dans la section recrutement du site internet, ben voilà, je pose mon CV et on m'appellera si y a une offre qui correspond. Mais dans ce cas-là, vaut mieux quand même après avoir envoyé une candidature spontanée, rester en veille sur les offres qui sortent. Dire bon, j'ai envoyé ma candidature il y a 3 mois, mais maintenant qu'il y a une offre qui me correspond, je postule.
Et donc ça veut dire que ça peut valoir le coup de se faire une petite liste des entreprises qui nous intéresse, dans lequel on aurait envie de travailler potentiellement dans notre région, ou parce que c'est un secteur qui nous attire, ou dans se mettre d'accord sur un petit nombre et ces entreprises-là de les cibler avec des candidatures spontanées si elles n'ont pas d'offres en ce moment.
Ouais, ça peut être intéressant. Après, il faut juste pas se désespérer si on n'a pas de retour immédiat.
Ok, il y a une autre question dans le chat. Que faire face aux 3 à 5 ans d'expérience demandés dans les 3 quarts des offres? Ça, je crois que c'est une question que pas mal de jeunes diplômés se posent. Quand tu arrives sur le marché du travail, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'offres pour toi, que les entreprises veulent des gens qui ont un petit peu d'expérience, mais qu'elles pourront payer pas trop cher. Comment tu... Qu'est-ce que tu penses de ça?
Après, c'est à voir. On peut quand même tenter de postuler, puisque si le profil intéresse, ils vont passer à côté des 3 à 5 ans d'expérience, donc se dire, bon, bah, allez, je tente. Peut-être plus se concentrer sur celles qui vont dire débutant accepté. Voilà, en désespoir de cause, dire, allez, je postule quand même, peut-être qu'ils aimeront mon profil, puis ils disent non.
Oui, c'est ça. Tous ceux qui ont été embauchés ont tenté leur chance, a priori.
C'est ça.
Comme pour l'auto. Mais on va peut-être poursuivre cette discussion en invitant Laure à nous rejoindre, qui est notre première témoin ce soir, qui va nous parler un petit peu de sa recherche de boulot, de là où elle en est, les difficultés qu'elle rencontre, les questions qu'elle se pose, tout ça. Bienvenue.
Merci.
Alors, juste avant que tu commences, Laure, il y a une question dans le chat, Mathilde, qui est, est-ce que reprendre des formations comme un master 2 spécialisé après une période de chômage, c'est une bonne idée ou pas en ce moment?
Alors, reprendre des formations, c'est un peu toujours une bonne idée. Après, il n'y a pas que les formations universitaires qu'on peut faire, surtout quand on a eu une période de chômage. On peut partir vers de la formation continue qui va être plus ciblée sur les emplois qui recrutent en ce moment. Donc, ça peut être aussi intéressant de se tourner vers ça.
Et ça, on peut trouver des infos via Pôle emploi, en général?
Oui, ou via la mission locale.
Ouais. Si on a moins de 25 ans, du coup.
Si on a moins de 25 ans, après, Pôle emploi va avoir la liste des formations qui sont financées. La PEC aussi aura sûrement cette liste. Je crois qu'on peut les trouver aussi sur le site de sa région. En général, il y a pas mal de formations qui sont financées par la région. Mais dans tous les cas, il faut être inscrit à Pôle emploi pour les formations. Pour la formation continue.
Ok, super. Alors, du coup, on va peut-être commencer. Laure, est-ce que tu peux raconter un petit peu ton parcours en termes d'études et nous dire où tu en es, est-ce que tu recherches comme boulot?
Oui, bien sûr. Donc, j'ai un bac S que j'ai passé en 2014. Ensuite, j'ai fait une licence de cinéma. Et là, en octobre 2020, je viens d'être diplômée d'un master en communication politique. Que j'ai fait en alternance dans une entreprise. Et donc, je cherche un travail dans la communication et sinon aussi dans la rédaction, puisque j'ai aussi fait un parcours journalistique à côté de la communication.
Et en termes de recherche, du coup, qu'est-ce que tu as essayé?
Alors, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait les candidatures spontanées. Je réponds aussi également à des offres. Et j'ai beaucoup pris en compte aussi les outils de l'APEC. Tu en parlais tout à l'heure, Clémence. Et l'APEC, vraiment, je l'ai découvert en cherchant mon premier job à l'issue de mon master. Et c'était vraiment une énorme aide. Ça propose plein d'outils vraiment divers et variés. Et je pensais pas du tout que ça pouvait être autant impactant, parce que je m'étais dit que j'avais quand même un bac plus 5, que je faisais de la communication, donc au niveau de mon CV, de ma lettre de motivation, je savais plus ou moins correctement l'air. Et en fait, ça a été une énorme aide pour structurer tout ça. Il y a aussi avoir des avis sur ma manière de fonctionner et d'appréhender aussi mes candidatures, et aussi de me rassurer dans ce que je faisais. Donc l'APEC, vraiment pour ça, c'est un outil exceptionnel.
Et au niveau du moral, du coup, ça fait plusieurs mois là que tu es en recherche. Comment tu te sens?
Alors, ça fait plusieurs mois, oui. Au début, ça allait, puisque il a fallu que je commence mes démarches. Et là, ça a été vraiment compliqué début janvier, le passage à l'année 2021, de voir que les restrictions sanitaires étaient de plus en plus ardues. Et donc, forcément, la recherche est de plus en plus compliquée, puisque tous les budgets des entreprises sont de plus en plus coupé. Et notamment en communication, on sait que c'est un secteur qui est très bouché, notamment chez les jeunes diplômés. Et forcément, de voir que ça va toujours être compliqué de trouver un travail parce que les restrictions sont de plus en plus nombreuses et tout ce qu'on entend au niveau du gouvernement, ça annonce pas forcément du bien pour la reprise économique des entreprises. On se dit que ça va être de plus en plus compliqué et de plus en plus long pour trouver un travail.
Quand t'entends Laure parler de ça, Mathilde, c'est quelque chose que tu retrouves chez les jeunes que t'accompagnes au quotidien? Cette inquiétude, ouais, de quand est-ce que le marché va repartir?
Ça va, on le voit assez, on le voit pas mal. Et voilà, moi j'ai pas trop de réponse à donner sur. J'ai pas de boule de cristal qui va dire quand est-ce que ça va repartir. Tu fais juste très bien de t'entourer avec la PEC. Si tu trouves quelqu'un en plus avec qui t'as un bon feeling, avec qui tu te sens bien épaulé, c'est juste super pour t'éviter d'être isolé dans ta recherche d'emploi. Et voilà, après, tout ce qu'on peut dire, c'est de pas désespérer. Alors tout ce qui est mis en réseau, etc. Il y a pas mal de. Après, tu peux te tourner vers des fondations d'entreprises parfois qui font de la mise en réseau, des rencontres avec des employeurs. Je sais que sur l'île, il y en a plusieurs d'associations qui font ça. Je pense notamment à la Fondation des Possibles qui crée des rencontres. Donc ils ont fait rencontrer par exemple à des jeunes les patrons d'IBM, les patrons, je crois qu'avec showroom privé aussi. Voilà, ils font avec des grosses entreprises des rencontres entre des jeunes et des employeurs et parfois ça match, parfois c'est juste du conseil, mais ça permet au moins d'avoir un petit réseau.
Est-ce que toi, Laure, il y a des points sur lesquels tu te poses encore des questions, des points sur lesquels on pourrait t'aider? Parce que j'ai l'impression que t'es déjà vachement bien, que tu fais déjà tout bien, que t'es déjà super soutenue et entourée. Mais voilà, s'il y a des questions que tu te poses encore, on est là.
C'est vrai que cette question des 3 à 5 ans d'expérience et aussi, enfin, surtout dans le milieu de la communication, aujourd'hui, je suis beaucoup de comptes sur Instagram comme Balance My Agency, Balance Ta Rédaction, Balance Ta Startup, qui divulguent pas mal d'informations sur les entreprises vers lesquelles c'est compliqué, ou en tout cas, il y a eu des histoires compliquées. Et je trouve que ça rentre aussi en compte dans ma recherche d'emploi. Et finalement, quand je cherche, quand je trouve des offres d'emploi, j'ai l'impression de passer plus de temps à savoir si ça va être une entreprise dans laquelle je vais me sentir bien, dans laquelle je vais être saine et où je vais pouvoir évoluer correctement et où mes missions vont bien se passer. Et finalement, ça pose un problème aussi dans ma recherche et ça me prend du temps. Pour conclure, c'est vraiment est-ce que il y a des entreprises ou des milieux d'entreprises dans lesquels on est sûr qu'il n'y ait pas trop de soucis ou pas trop de problèmes au niveau de tout ce qui se passe en ce moment sur ces différents comptes Instagram.
Tu me demandes s'il y a des sociétés sans sexisme et sans discrimination dans une société.
À part Mademoiselle Héroïque.
Écoute, j'aimerais bien te répondre oui et te donner une liste. Et même, on devrait faire un annuaire. Mais en vrai, je pense que même dans les entreprises les plus, comment dire, woke sur ces questions-là, qui sont sensibilisées aux questions de discrimination, etc., même là, parfois, il peut y avoir des personnes, des remarques, des réactions qui, malheureusement, sont pas à la hauteur. Après, ça veut pas dire que... Enfin, j'entends ce que tu dis, parce que quand, par exemple, voilà, on voit... Enfin, moi, je suis pas mal Balance Ta Rédaction sur le milieu du journalisme, et j'avais l'impression que toutes les rédactions étaient concernées, et en fait, il faut se dire que c'est des événements isolés qui sont terribles et il faudrait pas que ça ait lieu. Mais c'est pas pour autant que toutes les personnes qui sont passées dans cette entreprise ont eu un ressenti, une expérience pourrie. Et même si t'as une mauvaise expérience, t'y apprends des choses aussi. Parole de personne qui a découvert dans son premier job qu'elle était payée 200 euros de moins que son collègue masculin qui faisait pourtant exactement le même boulot. Bah, c'est pas agréable quand tu découvres ça. Ça pique un peu. Mais du coup, c'était une bonne leçon aussi parce qu'après, j'ai négocié tous mes salaires tout le temps. J'ai rien lâché. Donc, je pense que je comprends l'inquiétude. Je trouve ça cool que la parole se libère et que ça permette peut-être de faire du tri parmi les entreprises qui vraiment abusent. Après, je pense qu'il faut pas que ça te fasse complètement peur du monde du travail et d'être ultra sur la défensive de « oh là là, mais tout le milieu est pourri » parce que le fait que la parole se libère maintenant, ça montre qu'il y a des gens qui ont envie de changer aussi le milieu. Et je pense notamment dans la communication, il y a pas mal de femmes qui soit partent créer leurs agences, soit tapent du poing dans les agences qui existent pour dire « hey, faut que ça s'arrête en fait ». Et donc les choses sont en train de changer, c'est le côté positif. Alors, il y a des réactions dans le chat qui disent que toutes les entreprises et l'expérience nous font grandir et évoluer. Clock 69 qui dit que les Lyonnes font un super boulot là-dessus. Oui, je pensais à elle justement quand je disais des agences créées par des femmes. Est-ce que Mathilde, tu voulais réagir? Parce que pardon, j'ai bien tenu le micro.
Non, mais du coup, ça a été très complet. J'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai qu'il faut pas que tu t'angoisses à cause de ça, en fait, à trop regarder les affaires. Après, je les suis aussi, ces comptes Instagram-là, et après, ils font pas que balancer les mauvais témoignages, ils ont aussi quelques bons témoignages, et peut-être essayer de se concentrer un peu plus là-dessus. Et parfois, même dans un endroit où il y a un environnement toxique, tu peux avoir une bonne expérience parce qu'elle sera plus courte, et que tu seras tombé sur des personnes sympas. Donc te dire que voilà, même si des personnes ont eu des très mauvaises expériences quelque part, pas toujours se freiner à cause de ça, et surtout pas s'angoisser et avoir peur de chaque nouvelle candidature.
Surtout dans les grands groupes, où je me dis que selon les services, selon les managers que tu as, ça peut être très différent, l'ambiance peut être vraiment très différente. Et un truc, moi, avant de bosser, j'approchais pas mal les entretiens comme un truc hyper stressant, de se dire oh là là, on va m'évaluer, faut que je sois au top et tout. Et en fait, si tu vois l'entretien comme une rencontre et comme en fait je vais voir si la boîte me convient et si je leur conviens aussi, je trouve que ça enlève de la pression et que du coup tu peux te dire tant pis, j'essaye sur cette offre là j'envoie ma candidature et je verrai en entretien comment ça se passe, je poserai des questions, j'essaierai de sentir un petit peu l'atmosphère dans la boîte à ce moment-là. Et en fait, on peut capter pas mal de trucs. Bon, parfois, on voit pas tout, mais on peut quand même un peu avoir des signaux. Est-ce que, sauf si Laure, t'avais d'autres questions ou d'autres envies de partage, sinon on va continuer la discussion à quatre en proposant à Romain de venir nous parler de son parcours.
Non, pour moi, c'était toute l'expérience que j'avais à partager et merci pour les différents conseils que vous avez pu m'apporter, en tout cas.
Ouais, on n'est pas rentré dans les conseils très pratiques parce que j'ai l'impression que tu étais déjà hyper au point là-dessus et que c'est toi qui pourrais me donner des cours de CV. Moi, j'en avais une, Mathilde, qui revient souvent quand je parle avec des jeunes diplômés, qui est « mais qu'est-ce que je mets sur mon CV et dans ma lettre de motivation alors que j'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle ?»
Il y a toujours des choses à mettre dans son CV, hein. En fait, si on n'a pas beaucoup d'expérience, souvent quand on a fait des choses, on a fait quand même quelques stages, donc les stages, c'est important de les mettre. Et si on n'a pas beaucoup d'expérience, on peut les développer un petit peu, expliquer ce qu'on y a fait, ce qu'on a mis en place comme projet. Donc déjà, ça prend un peu plus de place et ça permet de compléter un petit peu. Et aussi, tout ce qui va être loisirs, parcours associatif, parcours bénévole, ça c'est très important de le mettre dans le CV. Je sais que moi, j'ai déjà eu affaire avec des personnes qui n'ont pas fait d'études et qui n'ont pas travaillé. Et dans ce cas-là, c'est important de mettre en avant ce qu'on fait dans la vie privée, parce que si on n'a aucune vie professionnelle, on va mettre en avant. Donc, si on s'est occupé d'un parent, si on s'est occupé de ses petits cousins, de ses petits frères, de ses petites sœurs, même si on a travaillé un peu au black, on le met. Donc, on ne met pas que c'était au black, mais on le met. Les jobs étudiants, c'est important de les mettre. Les jobs d'été, les extras, enfin voilà, tous les petits trucs qu'on a l'impression non, ça sert à rien, je le mets pas. Ainsi, ça sert toujours. Les loisirs, on va les mettre, les projets étudiants, on va les mettre aussi. Donc on met tout. Si on a peur de pas en mettre assez, on met tout.
Ok, alors il y a Raven29 qui réagit en disant « Mais est-ce que les stages sont bien vus par les employeurs? En ne les mentionnant pas, j'ai l'impression d'avoir plus de réponses. »
Alors ça dépend combien t'en as fait, et puis si t'as de l'expérience ou pas. Si t'as pas d'expérience, oui, il faut absolument mettre tes stages, parce que sinon tu vas rien mettre du tout. Et si c'est des stages qui ont rien à voir avec l'emploi que tu recherches, c'est peut-être pas obligatoire. Mais si, c'est bien. Et si les stages sont bien vus, surtout pour quelqu'un qui va être jeune, en fait, c'est quelqu'un qui va arriver sur le marché du travail à 22-23 ans et qui aura déjà fait 5-6 stages, on se dit « Ah ben c'est bien, il est jeune et il a déjà connu le monde du travail. » Ça montre que tu sais un peu ce que tu fais quand même sans avoir eu d'expérience.
Et à l'inverse, il y a Sadines qui demande si on a trop de choses à mettre dans un CV parce qu'on a fait beaucoup d'études ou qu'on a eu beaucoup d'expériences professionnelles différentes. C'est quoi les éléments primordiaux? Bah, j'ai envie de dire, ça dépend de l'offre, non?
C'est, ouais, ça va dépendre de l'offre surtout, et c'est le plus récent. Par exemple, bah, quand on a un master, on va éviter de mettre le brevet des collèges, c'est peut-être pas forcément utile. Mais ou alors, quand on a des expériences très différentes, ça va être ciblé là où on postule. Donc nous, on conseille de faire plein de CV différents pour les personnes qui vont rechercher sur plusieurs métiers. Alors, travailler au black, on le met. Vous êtes sûr? Et si la nouvelle entreprise appelle patron pour savoir? Alors, l'entreprise, normalement, où tu postules, n'a pas le droit d'appeler le patron sans te prévenir avant. L'entreprise où tu vas postuler, elle doit te demander l'autorisation avant de faire un contrôle de référence. Et après, si elle appelle en disant, enfin, c'est pas l'URSSAF, elle va appeler en disant, ah, je sais que vous avez travaillé, je sais que vous avez travaillé avec Sunplay 63, comment il était. L'entreprise qui t'a embauché au black, elle a pas besoin de fournir de contrat de travail. Donc, elle va juste dire son ressenti par rapport à ton travail. Et à la limite, préviens-le avant pour qu'il ait pas l'impression de se faire contrôler et ça se passe bien.
Il y a eu plein d'autres questions je vais te les dire ce que j'ai noté. Il y a quelqu'un qui demandait comment justifier des périodes d'inactivité dans un CV, et je pense que ça c'est une question cruciale en ce moment puisque bah avec la pandémie il y a pas mal de gens qui sont en inactivité forcée, en repos forcé en ce moment. Comment on justifie ça, ou comment on justifie 6 mois de chômage?
Après, si c'est 6 mois, alors si c'est par exemple par rapport à un événement familial, une naissance, ça se justifie assez facilement. Hein.
Mais du coup, on met rien sur son CV si on nous pose la question.
On n'est pas obligé de le mettre sur le CV, non. Puis après, la personne en entretien va poser la question. Ah, ben je vois un trou, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est là qui peut être intéressant de noter les bénévolats, les loisirs, si on a fait des projets un peu. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas travaillé qu'on a été inactif. Donc on peut mettre ce qu'on a fait pendant ce temps-là, même si c'est pas professionnel. Et si, après, je pense que les personnes qui ont un trou dans le CV qui dure du mars 2019 à, de mars 2020, pardon, à janvier 2021, j'espère que les entreprises vont pas trop le tenir en compte. Hein. Mmh.
Oui, il faut se dire qu'on est tous dans le même bateau. Et
voilà, c'est ça, les entreprises en auront conscience. Ouais. Mmh. Ils peuvent comprendre aussi que vu la conjoncture, ben voilà, un barman qui a un trou dans son CV sur l'année 2021, ils vont comprendre. Mais après se dire, ben voilà, j'ai été en recherche d'emploi, je me suis cherchée. En fait, il suffit d'être honnête et d'être à l'aise avec ça pour que ça se passe bien.
Il y a pas mal de gens dans le chat qui nous demandent si on recrute chez Mademoiselle, ou qui nous demandent si on peut les recruter au poste de rédactrice mode. Et effectivement, on a des offres ouvertes en ce moment chez Mademoiselle. Vous pouvez aller voir sur sur le Welcome to the Jungle du Manoïd que Marie vous mettra dans le chat. Et donc on a plusieurs offres ouvertes en ce moment, et concernant l'offre de rédactrice mode spécifiquement, on est encore en train de trier les candidatures. C'est pas moi qui m'en occupe, mais j'ai entendu dire qu'elles étaient encore en train de trier les candidatures, et donc elles vont recontacter les candidates et candidats dans les prochains jours, je pense, et bah, les autres auront une réponse négative aussi dans les prochains jours. Je pense qu'on va enchaîner avec Romain. Salut Romain.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tu nous entends?
Ah, je vais vous voir. J'ai deux écrans, je vous vois sur deux écrans. C'est très bizarre. Oui, je vous vois.
Et bah, Romain, même question qu'alors. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours en termes d'études et de recherche de boulot? Nous dire là où tu en es.
J'avais réfléchi à la question, j'ai un peu oublié. Je sais pas à quel point je dois remonter loin. Si ça, ça va être intéressant.
À la maternelle, s'il te plaît.
J'ai fait d'abord un bac pro en alternance en technicien d'usinage, donc métallurgie dans l'industrie, tout ça. Ça se passait bien, sauf à ma dernière année où je me suis dit, est-ce que tu as envie... Donc j'ai fait ça dans une grosse entreprise qui faisait des moteurs d'hélico. Puis après, je me suis dit, est-ce que tu as envie de faire ça plus de 2 ans après la fin de ton bac? La réponse était très rapidement non. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais après? Il y a eu un an de trop, et là je sors de mes 4 ans, même maintenant, de bachelor où j'ai fait du game design en école privée, dans une école d'art. Et voilà, j'ai fini ça cet été, et maintenant je cherche un travail.
Est-ce que tu peux expliquer à la noob que je suis ce que c'est que du game design?
Alors en plus ça va être particulier parce que ma formation, je suis un peu parti dans tous les sens pendant que je l'ai fait. Le game design, ça va être de la conception de jeux vidéo, niveau design, donc établir qu'est-ce qui se passe dans le jeu vidéo, que ce soit au niveau histoire, contrôle et tout ça. Moi j'ai fait un peu de développement en même temps à côté, donc du coding et un petit peu aussi même de gestion de projet. Et donc un peu pour c'est toujours le même thème maintenant dans ma recherche d'emploi que c'était pendant ma formation où finalement j'ai presque changé d'avis et de parcours de carrière durant ma formation où quand je suis entré je voulais être un petit développeur de jeux indépendants et j'étais très très concentré sur l'aspect développement code. Puis j'ai un peu changé d'avis et je me suis un peu plus concentré sur l'aspect artistique. Et puis après, j'ai rechangé. J'ai tenté ma candidature pour un master en gestion de projet parce que je voulais faire de la gestion de projet absolument. J'étais beaucoup plus très solitaire au début de ma formation, très à vouloir travailler avec d'autres gens à la fin. Et donc, j'ai vu que pour faire ce genre de travail, après multiples candidatures pour faire un stage en gestion de projet, que c'était pas possible. Moi, j'étais en fait un profil nul, j'ai remarqué. J'avais fait une école de jeux vidéo et j'étais intéressé par de la gestion de projet. Et les entreprises étaient intéressées par quelqu'un qui a fait une formation en gestion de projet et qui est intéressé par le jeu vidéo. Donc tout le monde m'a gentiment dit va faire une formation. Donc j'ai essayé, j'ai raté mon concours. J'ai fini mon année et là je rechange encore. Peut-être que ça intéressera ou pas que j'en parle plus tard, mais gros gros ras-le-bol des jeux vidéo. Et donc là je cherche dans la mode maintenant. J'ai beaucoup parlé.
Non, mais du coup, c'est bien de... parce que je pense que ton expérience montre que la vie professionnelle, c'est pas un truc linéaire. Souvent, t'as l'impression, quand tu écoutes des gens qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience, t'as l'impression qu'ils ont su tout de suite se diriger et trouver telle offre qui les a emmenés vers tel emploi, et ensuite vers tel autre emploi, et vers tel autre emploi. Et en fait, ça se passe rarement comme ça. Souvent, ça se passe comme ce que tu racontes. On essaye un truc... Puis on se rend compte que ça nous plaît pas, alors on essaye autre chose. Puis là, ça nous montre ce qu'on aime bien, mais aussi ce qu'on aime pas, et donc on rebascule. Et bah, je trouve que c'est plutôt courageux de ta part d'avoir su quand tu voulais pivoter et de continuer à essayer de trouver ta voie.
Moi, limite, c'est tous les ans, j'ai l'impression d'avoir trouvé. Enfin, et tous les ans, je rechange d'avis. Bon, j'ai eu la chance d'avoir fait ça un peu pendant une formation là, ces quelques dernières années, donc j'ai pas eu à changer littéralement de parcours, j'ai pu le faire en cours du truc, mais ouais, c'est compliqué. Si ça arrive à d'autres gens, j'ose imaginer, enfin en tout cas avec les gens que j'avais autour de moi, c'était plutôt normal autour de moi, donc je crois que ça l'est.
Ouais, je pense que c'est ça l'est. Et pour l'instant, les entreprises ont peut-être encore un peu de mal à intégrer ce truc-là, ça peut faire peur un peu les profils touche-à-tout qui ont essayé plein de trucs différents. Mais j'ai l'impression que les entreprises commencent à capter que c'est intéressant. Je sais pas si vous connaissez si Mathilde et Romain et les gens dans le chat, si vous connaissez le concept de multipotentialité. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Peut-être que j'en ai entendu parler sous un autre nom, mais ça me parle pas alors.
Le fait d'être multipotentiel, c'est les gens qui ont le sentiment qu'ils n'ont pas de vocation et qu'il y a plein de trucs qui les intéressent, mais pas un truc qui les intéresserait suffisamment pendant les 50 prochaines années pour en faire leur vie professionnelle. Et ça peut être assez flippant quand t'es multipotentiel parce que t'as l'impression que les autres personnes autour de toi, bah, ils trouvent un truc et ils creusent leur sillon là-dedans et ça leur va et que toi t'arrives pas à faire ça. Et en fait moi je pense que la multipotentialité c'est une chance et il y a un super TED Talks là-dessus que je vous mettrai peut-être dans le chat si je le retrouve, mais bref, tout ça pour dire que ça peut être une chance parce que du coup, ton intérêt pour le jeu vidéo couplé avec ton intérêt pour la mode, bah ça peut donner peut-être un truc unique par rapport à quelqu'un qui serait intéressé juste par la mode ou juste par le jeu vidéo. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui, je vois. Moi, j'ai été passionné. Je le suis un peu moins maintenant, mais j'ai été passionné longuement par la question qu'il y avait dans le jeu vidéo, ou même vu que j'étais aussi très proche des gens qui faisaient une formation en cinéma d'animation. Il y avait la grosse question de est-ce qu'il vaut mieux être un généraliste ou un expert? Après avoir fait plusieurs salons, parler à des pros, j'ai aussi pas mal participé en vie associative au niveau de ma ville, de Toulouse. La conclusion que moi j'en ai eue, ça parlait beaucoup anglais, j'ai pas le terme français, mais apparemment les entreprises et les pros aiment bien les T-shaped people, donc les personnes en forme de T, où du coup il y aurait une bonne spécialité dans un domaine, mais être assez généraliste ailleurs. Savoir toucher un petit peu à tout, et en sachant pointer du doigt dans quoi on est spécialiste. Ce que j'ai rarement su faire d'ailleurs, ce qui est un de mes gros problèmes, que j'arrive pas à me pencher assez longtemps dans quelque chose.
Ok, t'as le haut du T, mais pas encore.
Ouais, c'est pas ça. Encore c'est le bas. Ça. J'ai toujours trouvé bizarre cette métaphore d'ailleurs, parce que le T aurait dû être dans l'autre sens, mais bon. C'est comme ça qu'on me l'a. Tellement de gens m'en ont parlé comme ça, je le ressors.
Qu'est-ce que ça t'évoque, Mathilde, le parcours de Romain, de se réorienter comme ça plusieurs fois? Toi, si tu vois un jeune comme Romain arriver à la mission locale, qu'est-ce que tu lui dis?
Moi, je trouve que c'est tout à fait normal de se poser des questions, d'aller vers un domaine, et puis en fait oui, puis peut-être, et puis non, je sais pas, puis aller vers un autre. Et c'est quelque chose de, moi je trouve, de très sain en fait, d'interroger les formations que t'as faites. Et donc là, si tu veux, là par exemple tu parles de travailler dans la mode, à la limite si tu veux aller un petit peu plus loin, il faudrait que tu essayes de un peu creuser plus, te dire, parce que la mode c'est très très général, donc qu'est-ce que tu veux faire là-dedans, quels sont les différents métiers, où est-ce que je peux me tourner?
Alors, moi, j'aimerais faire du design principalement. Un peu, en fait, j'essaie de me dire que j'ai quelques compétences en graphisme et tout particulièrement plutôt en 3D. Et j'ai vu que c'était utile et que peut-être il y avait un filon dans la mode à l'avenir de plus en plus de passer par de la conception 3D pour aller plus vite plutôt que de faire ça sur des mannequins réels, donc j'essaye un petit peu ce dernier mois de m'auto-former là-dessus, et du coup je me renseigne pas mal je cherche beaucoup de la formation pour accéder à ça, et je vois que c'est minimum des BTS ou autre, et moi j'ai plus trop les épaules là pour pouvoir repartir en formation sans avoir de revenus. Parce que la garantie jeune, ça dure 12 mois maximum. Ça n'a pas été précisé tout à l'heure. J'ai pris mes infos il y a quelques temps. Où ça a été dit,
Non, on a oublié de le dire, ouais, tout à fait.
Ça dure 12 mois max. Et aussi, c'est pas fait, il me semble. Ça me fait réviser en même temps. Si quelqu'un postule à la garantie jeune mais trouve une formation, la garantie jeune s'arrête, il me semble.
Non.
Ah non, ok.
Non, en fait, si tu trouves la garantie jeune, tu peux cumuler des revenus de formation et de garantie jeune jusqu'à une certaine hauteur. Un peu comme les allocations chômage, tu vois. C'est,
ah, ok.
Par exemple, tu touches 400 euros de garantie jeune et 100, alors il y a des calculs que je ne connais pas du tout, hein, mais tu peux cumuler jusqu'à un certain plafond. Okay. Après, en fait, c'est parce que aussi souvent les conseillers mission locale, ils déconseillent de faire les deux en même temps, parce que justement, vu que t'as que 12 mois de garantie jeune, c'est dommage de rentrer en garantie jeune 2 semaines avant une formation qui durera 9 mois, et du coup ça te fait gaspiller 9 mois où tu pourrais avoir des revenus tout le long si c'est une formation qui est rémunérée.
Ouais.
C'est surtout pour ça qu'on déconseille de faire les deux en même temps.
Et là tu parles c'est les formations rémunérées, c'est plutôt du coup de la formation continue, ou il y a des formations pour les jeunes aussi qui peuvent être rémunérées? Alors, par les régions par exemple, ou...
C'est ça, ces formations qui sont financées par Pôle emploi, par la région, sont rémunérées. Après, dans le milieu de la mode, je suis pas sûre qu'on trouve beaucoup de formations qui soient financées par la région, parce que c'est toujours des formations avec des métiers qui recrutent énormément sur le territoire. Mais il y a toujours le biais de l'alternance qui est très intéressant sur ce genre de domaine.
Pour le moment, moi, de mon côté, j'en ai vu aucune. C'est pour ça que je m'intéresse un petit peu de loin, mais pour l'instant, je cherche plus à prendre mon premier pas en étant vendeur, quoi. Donc vendeur dans un magasin pour voir un petit peu et découvrir sur le terrain ce qui se passe, et toujours rester l'œil ouvert à comment moi m'auto-former si c'est possible, et voir comment je peux transitionner sur une formation après. C'est un petit peu mes angles et ce que je cherche actuellement.
Et t'as déjà bossé dans le commerce ou jamais?
Pas du tout.
Pas du tout. Okay.
Pas du tout. Justement, d'ailleurs, tout à l'heure, Mathilde, tu disais que tu trouvais mon profil intéressant. Et je me pose la question là, parce que je me présente absolument jamais comme ça, en fait. Même quand je suis à la mission locale, je me suis pas présenté comme ça. D'habitude, je parle peu du fait que j'ai été attiré par 50 choses différentes. Essayer de faire plus ciblé. Donc justement, d'habitude, je parle plus du fait que j'ai fait pas mal d'accueils de personnes. J'organisais pas mal de soirées avec une association pour dire « Hey, je sais accueillir des gens s'il faut » et tout ça. C'est plutôt comme ça que j'essaie d'orienter les choses, vu que j'ai aucune expérience professionnelle à ce niveau-là, quoi.
Tu as fait des stages quand tu étais en formation de game design et de chef de projet, non ?
Ouais, j'ai fait un stage, ouais.
Ouais, donc ça peut être des choses que tu peux mettre en avant, même pour être vendeur, par exemple. Parce que si tu as fait des stages de chef de projet, tu as fait de la relation client, très probablement.
Pas de la relation client, vraiment. Enfin, c'était à l'intérieur de l'équipe, donc, mais c'était pas avec des clients extérieurs, du coup.
Ah d'accord, ouais. Non, mais après, c'est pas très grave, parce que du coup, tu peux aussi vendre le fait que tu as fait de la gestion d'équipe. Voilà, ouais. Tu peux aussi peut-être dans certains magasins, les magasins indépendants par exemple vont avoir leurs réseaux sociaux à gérer en même temps. Donc dire ben voilà, moi j'ai cette carte là à porter. Donc tu me prends en tant que vendeur, mais je peux m'occuper du Facebook, du Instagram, je peux avoir un œil artistique sur la vitrine, sur les photos, sur des choses. Voilà, dire que tu as des choses à apporter. En fait, faut pas hésiter à faire des ponts entre les différentes filières. Parce que tu vas dire je veux être vendeur, j'ai un parcours de créateur de jeux vidéo, ça a rien à voir, c'est trop dur. En fait, pas du tout. Il y a plein de ponts à faire. Alors là, je vais pas réussir de tête comme ça à te dire dans ton profil parce que je sais pas ce que tu sais faire. Mais ce que tu peux faire qui est très intéressant, c'est que tu vas sur le site de Pôle emploi avec les fiches métiers. Les fiches métiers Pôle emploi, elles sont très complètes. Et dessus, tu auras une liste des compétences d'un vendeur. Donc tu vas mettre vendeur prêt à porter ou vendeur, peut-être vendeur jeux vidéo si c'est autre chose qui t'intéresse. Et tu vas mettre vendeur spécialisé sur la fiche métier Pôle emploi. Il y a une liste de toutes les compétences, de tous les savoir-faire, et tu lis, et tu dis « Ah, mais ça, je sais le faire, ok. Ça, je sais le faire, ah, bah ok, ça, je vais le mettre en avant. » Et puis, tu mets des petites croix dessus, et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses dans ce métier que tu sais faire, et au final, auxquelles tu n'avais pas pensé.
Et c'est cool si tu arrives à mettre des exemples à côté pour montrer que tu sais le faire, quoi. Genre, effectivement, c'est ce que tu disais sur l'accueil de soirée, quoi. Relation client, bah ça, oui, effectivement.
Relation client, accueil, fidélisation. Accueil de soirée, t'as peut-être dû toucher à des caisses. C'est des soirées.
C'est vrai. C'est vrai que ça, j'y pense pas du tout, oui. Oui,
t'as fait de la relation avec des fournisseurs, peut-être, si.
Oui, aussi, j'ai fait ça, voilà. C'est vrai.
Voilà, c'est des choses. Donc après, si tes expériences collent pas forcément avec le métier que tu recherches, quand tu vas faire ton CV, tu vas pas forcément expliquer tes expériences, dire voilà, j'ai fait ça. Tu vas plutôt mettre une case en plus qui s'appelle ta case compétences. Tu vas mettre hop, mes compétences, c'est des choses que tu as déjà faites qui sont en lien avec le métier de vendeur. En fait, quand on réfléchit dans cet ordre-là, en fait, on se rend compte que si, on sait faire des choses.
Est-ce qu'on peut, à quel point, j'ai presque l'impression qu'on peut, avec ce que tu disais tout à l'heure, Clémence, on peut presque y aller au culot, parce que moi, par exemple, enfin, j'avais les compétences il y a 2 ans, je ne sais pas trop si je serais capable de le faire, mais si il y a une petite boutique indépendante et j'y vais en candidature spontanée, je vois que leur site, il est très très vieux et pas à jour, et je leur dis « Hey, je pourrais peut-être mettre à jour votre site aussi. » Enfin, à quel point on y va en faisant les liens, on peut y aller
À quel point on bluffe?
Oui, c'est clairement ça, ce que je dis, c'est à quel point on bluffe. À quel point il faut être beau pour candidater jusqu'à ce qu'il y ait le oui.
Alors, Mathilde, tu me diras.
On bluffe jamais.
On bluffe jamais. Moi, je suis pas d'accord.
En fait,
je ne conseillerais jamais de bluffer. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Mais
ouais, tu conseilles pas. Ok. Moi, en fait, je vois la recherche d'emploi un peu comme un premier date amoureux. Je sais pas comment dire, mais alors, n'essayez pas de faire des trucs avec le recruteur. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais par contre, tu te présentes sous ton meilleur jour, en fait. Donc
tu mens pas.
Voilà, tu ne mens pas. Mais par contre, tu peux peut-être mentir un peu par omission. Sur en fait, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, donc que ce soit dans une relation professionnelle ou dans une relation personnelle, tu vas pas lui raconter que tes pires défauts. Enfin, donc c'est un peu pareil sur l'emploi. Tu vas plutôt essayer de te mettre en valeur, de parler de ce que tu fais bien, de tes réussites, de tes succès. Bah, pour moi, c'est un peu ça. Donc là, sur ta question spécifique de votre site internet, est-ce que je pourrais le refaire? Bah, t'es pas obligé de vendre des, faire des promesses que tu peux pas tenir, mais par contre dire j'ai eu une formation où j'ai appris à faire ça, je suis peut-être un peu rouillée, mais je pense qu'en m'y remettant avec des tutos je pourrais vous filer un coup de main, enfin
ouais, plus sous la forme jeter des bouteilles, au fait je suis capable de faire ça si un jour ça intéresse.
Ouais, je pense que tu, enfin, je sais pas ce que t'en penses, Mathilde, mais moi, en tout cas, si j'étais recruteuse, je serais là en mode, ah yes, ok. Bah, ça lui fait un petit truc en plus par rapport à quelqu'un qui m'aurait pas raconté ça pour ce poste-là.
Ouais, absolument. Après, il faut te vendre. Donc après, faut peut-être éviter justement le, bon, je suis un peu rouillée, il faudrait que je m'y remette. Non, c'est
non.
Juste, ouais, bah.
Okay. pas trop de sincérité. Okay. Ouais, ok, ok.
Voilà, c'est juste pas mentir, mais on n'est pas obligé de tout dire. Non, arriver en disant, ah, je pourrais peut-être faire ça, mais ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Faut dire, non, laissons, mais il sait pas le faire. Mais tu peux dire, voilà, oui, j'ai appris en formation à le faire, si vous voulez. Voilà, on. Donc là, ça ressemble plus à de la prospection client qu'à de la recherche d'emploi, mais ça marche aussi.
Ok.
Cette prospection client que t'as peut-être appris en formation.
J'en ai fait. En fait, je vois ce que c'est parce que il y a un petit peu les mêmes démarches que j'ai appris en game design. Je fais des grosses similitudes et c'est peut-être pour ça que j'ai cette démarche aussi vis-à-vis du marché de l'emploi et comment je le vois. Parce que en fait, l'idée, moi, c'est ce qui me terrorise un peu le plus, c'est surtout ce dont il était dit dans le live un petit peu au tout début, la solitude vis-à-vis du marché de l'emploi. Moi, c'est ça qui m'angoisse le plus. Une fois que je suis dans une pièce face à un humain avec lequel lui parler, en général, ça va. Je me sens un peu plus à l'aise, mais c'est vrai que face à mon ordi, envoyer le mail et une semaine et demie après, oh putain, c'est vrai, il faudrait en renvoyer le relance et tout. Ça mange l'énergie extrêmement vite. Enfin, trop vite, quoi, moi, en tout cas.
Bah, c'est vrai que c'est très solitaire, quoi, comme exercice. C'est dur de rester motivé sur le long terme si tu peux pas en parler à d'autres personnes. Je sais pas si t'as des, par exemple, des potes dans ton entourage qui cherchent aussi du boulot, parce que le fait de faire un peu une team de chercheurs d'emploi et chercheuses d'emploi, ça aide pour se motiver, je trouve.
Ouais, bah, pas mal, parce que j'ai encore mes potes qui continuent, eux, de chercher dans le jeu vidéo, donc on en parle, ouais, régulièrement, eux qui n'ont pas encore abandonné. C'est vrai que ça aide un petit peu à ce niveau-là, quoi. Mais c'est un petit peu, des fois, à la limite, tout le monde se lamente un petit peu. On se partage tous nos pleurs, quoi. c'est pas facile.
C'est pour ça que pour reprendre un peu le témoignage de Laure tout à l'heure, Laure qui s'est très vite entourée, en fait, qui est allée à la PEC, et ça peut être quelque chose qui peut être très très motivant, de pas forcément être avec tes potes, mais justement une inscription mission locale, ou bon, je vais encore faire la pub pour chez moi, hein, mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un, un peu une personne ressource, qui va te redonner de l'énergie aussi quand tu pourras appeler en disant, oh là là, en ce moment j'y arrive pas, j'ai pas la motive, et quelqu'un qui va te dire, ok, bah, c'est pas grave, aussi être tolérant envers toi-même si t'as des coups de mou et que cette semaine j'ai pas envoyé 10 candidatures, c'est pas grave. Être bienveillant envers toi et te dire cette semaine j'ai un coup de mou, je me prends un peu moins de temps, j'ai fait moins de candidatures, c'est pas grave, j'en ferai plus la semaine prochaine. Pas trop te mettre la pression tout seul, quoi.
D'ailleurs, si je peux lâcher un truc que j'ai fait il y a 2 mois et que je conseillerais à tout le monde. Je suis allé, ça s'appelle le réseau information jeunesse, je suis allé voir et j'ai pris contact avec une conseillère d'orientation et c'est ça qui m'a un petit peu amené à comment j'en discute aujourd'hui, où je suis un petit peu plus convaincu que je veux aller dans la mode. C'est en parlant avec cette conseillère d'orientation, big up Sophie Largo, merci beaucoup à toi, qui m'a aidé, qui m'a beaucoup donné le moral, qui m'a remonté le moral et qui a réussi à faire. Donc je suis encore en contact un petit peu avec elle, mais maintenant que je suis un petit peu plus éclairé, moins avant que j'avais plus de questions, j'avais plus la voir. Mais
bon, quand tu trouveras un boulot, tu pourras lui faire un petit mail pour lui dire merci.
Ah,
Sophie,
n'hésite pas, c'est merveilleux.
Ouais, ça fait du bien.
Tu as des petits mails de jeunes qui disent merci, maintenant j'ai du travail.
Je ne voudrais pas lui envoyer un mail, du coup.
Non, n'hésite pas, ça fait super plaisir. Je fais ça le lundi matin.
Romain, je vous interromps un peu parce qu'il y a eu plusieurs questions intéressantes dans le chat. On va reparler après de ta situation, mais on va prendre ces questions-là. Il y en a une qui dit « J'ai raté mon diplôme Bac plus 5 cette année. Quand je cherche du boulot, est-ce que c'est mieux que je parle de mon Bac plus 3 et pas du tout de ces deux dernières années de spécialisation ? Sinon, j'ai peur qu'on me pose des questions et de devoir justifier d'un échec devant un potentiel employeur. » Et je trouve que c'est une très bonne question, Mathilde. Je sais pas.
Très très bonne question. Moi, je serais plus d'avis de le mettre quand même et de s'entraîner à expliquer pourquoi on ne l'a pas eu. Parce que déjà, ça évite d'avoir un trou de 2 ans dans le CV. Donc, au lieu de mettre j'ai un master, on va mettre j'ai un niveau master. Et en fait, c'est pas parce que tu as raté le diplôme que tu n'as rien appris pendant 2 ans. Pendant 2 ans, tu as appris plein de choses. Peut-être aussi que tu as fait des stages, tu as fait des recherches, tu as fait des projets. Et du coup, ces choses-là, elles ne sont pas tombées à l'eau juste parce que tu n'as pas eu le diplôme. Donc, ça peut être bien de le mettre, mais par contre, de peut-être s'entraîner un peu à le justifier au moment d'un entretien. C'est-à-dire, voilà, comment j'en parle, d'être le plus à l'aise avec ça possible.
Ouais, de ne pas hésiter à faire de l'entretien blanc devant un proche, une proche.
C'est ça. Il ne faut pas hésiter à s'entraîner. De toute façon, il n'y a que ça qui paye pour les entretiens.
Ok, et il y avait une autre question, enfin qui était plutôt un partage d'expérience de quelqu'un qui racontait que aujourd'hui, alors que il avait un diplôme, il repostulait sur des offres en dessous de sa qualification et des jobs qu'il avait fait quand il était étudiant ou même quand il avait 16-18 ans et que aujourd'hui il se faisait recaler. Bon, après c'était peut-être lié à la période aussi compliquée. À cause du Covid, mais c'était très dur à encaisser ces échecs-là, qu'il avait l'impression de reculer un petit peu dans sa vie. Et du coup, moi, j'ai envie de te demander, Mathilde, comment on gère les échecs ? Parce que bon, l'absence de réponse quand on envoie des candidatures, c'est dur, mais alors le non, c'est peut-être encore plus dur. Comment on rebondit ?
C'est une question un peu difficile parce que ça va être propre à chacun. Ça va être la même question de comment on reste motivé sur le long terme. C'est toujours dur d'essuyer des échecs et après, j'ai pas trop de réponse sur ça directement.
Ouais.
Moi, j'ai ma réponse. Changer d'avis toutes les 3 minutes comme moi et vous aurez des échecs, mais toujours pour des raisons différentes. Donc, ça m'a maintenu mon espoir en tout cas, même si j'avance pas trop.
Moins monotone.
Ouais, voilà, c'est ça.
Peut-être un truc que moi je peux conseiller, c'est de demander au recruteur ou à la recruteuse ou au patron, patronne, ça dépend un peu de la configuration. Pourquoi est-ce que notre profil n'a pas convaincu ? Alors, je dis pas forcément si c'est juste un mail, vous recevez un mail générique à votre envoi de CV, mais si vous êtes allé passer un entretien, que vous avez rencontré la personne, que vous êtes allé donner votre CV en magasin et que derrière, on vous rappelle pour vous dire, bon, non, en fait, ça va pas le faire. Dites pas juste, ok, dommage, merci, au revoir. Demandez, en fait. Dites, dans un souci d'amélioration pour mes futures candidatures, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi mon profil vous a pas convaincu? C'est, peut-être que vous allez avoir de la langue de bois et qu'on va un peu vous balader, mais peut-être que vous allez avoir un retour qui va vous servir vraiment pour la suite. Moi, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de qu'on me dise « Ah bah là, on a pensé que vous avez manqué d'expérience sur ce point ou vous avez eu l'air d'hésiter un peu, vous n'étiez pas assez affirmé. » Enfin, ce genre de truc, ça peut aider pour la suite. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathilde. Est-ce que c'est un bon conseil ? Je demande ta validation.
C'est une très bonne idée, ouais. c'est une très bonne idée de faire ça. Puis ouais, le pire du cas qui puisse arriver quand tu poses cette question-là, c'est qu'on te donne de la langue de bois ou juste pas de réponse, donc ça pas grand-chose. Il y a Perrine BDR qui dit peut-être aussi il faut réussir à prendre de la distance, c'est pas forcément lié à vous, et ça c'est tout à fait vrai. C'est pas toujours, des fois c'est juste parce qu'il y avait un autre candidat qui était juste un tout petit peu au-dessus, et du coup c'est...
Par rapport à ce que disait Clément juste avant, ça c'est tombé dans ma... Ah non, je sais plus si c'est dans ma boîte aux lettres, si je l'ai récupéré. Ça s'appelle jobirl.com et c'est beaucoup lié à Toulouse, je crois. Mais j'ai pu parler à quelqu'un pour... en fait, apparemment, on peut parler à des gens pour poser des questions. Et donc, du coup, j'ai pu parler à des gens qui ont... comment on fait pour postuler dans un magasin de vente de vêtements ? Et moi, les gens m'ont rassuré sur le fait que c'était mieux de donner en candidature spontanée de donner les CV en main propre que de les envoyer par mail. Mmh. Donc je continue de faire ça. J'ai l'impression que c'est un peu polarisant et qu'il y a des gens qui aiment pas du tout et la majorité aime bien. Donc je continue à le faire au cas où, mais j'avais eu des réponses moi là-dessus en tout cas.
Tu continues à aller en magasin du coup ou à envoyer par mail?
Aller en magasin.
Aller en magasin, ouais.
Et du coup, moi, j'essaie un petit peu d'y aller quand il n'y a personne, genre le mercredi à 11h, pour pas trop déranger.
Très bonne idée. Puis si tu viens pendant les soldes, tu vas te faire remballer direct. Hein.
Ouais, bah ouais, j'ai compris ça aussi.
Ouais, c'est vrai que la période des soldes, c'est plus compliqué.
Oui, et en fait, au-delà de la personne n'aura pas de temps à t'accorder, en fait, elle va se dire, mais en fait, il connaît rien au métier, ce gars-là. Il vient pile poil le premier jour des soldes à 17h, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Donc, en plus de faire chier la personne que tu vas rencontrer, elle va pas du tout étudier ta candidature.
Je voyais Sunplay qui m'avait posé une question, et peut-être qu'il a lu ma vie. T'as trop changé de filière, c'est pas bon de devenir autant entrepreneur. Sache que je l'ai été et que j'ai essayé. Et voilà. et que j'ai fait quelques missions et que j'ai gagné un petit peu d'argent, mais que voilà, mon auto-entreprise est fermée maintenant.
Et bah justement, ça fait une très bonne transition avec une autre question là sur le chat de Sadines qui dit est-ce qu'on pourrait avoir des infos sur quelle démarche il faut entreprendre pour monter sa boîte, son auto-entreprise? Est-ce qu'il existe des lieux d'accompagnement? Alors oui, il y a un truc qui s'appelle l'ADIE, A-D-I-E, qui accompagne des porteurs de projets vers l'entrepreneuriat. Que, voilà, vous pouvez aller regarder. Je ne sais pas si Marie peut peut-être vous mettre un petit lien dans le chat. C'est, je pense, une bonne ressource. Mais ce que je vous propose, si cette thématique-là intéresse, on peut imaginer organiser un autre live plus spécifiquement sur l'auto-entrepreneuriat et l'entrepreneuriat avec d'autres personnes ressources. Enfin, sauf si Mathilde, tu as peut-être d'autres pistes à donner, mais je me dis que c'est peut-être moins ton domaine de compétences.
Pour les créateurs d'entreprise, bah, c'est moins le domaine de compétences, mais c'est dans les missions locales aussi, il y a ça. En général, ça va dépendre des territoires. Encore une fois, il y a pas mal de services publics qui vont proposer des aides pour la création d'entreprise. Il y a la BGE, il y a voilà, les CLAP dans les missions locales. Là où il y en a encore, vous pouvez aller voir les maisons de l'emploi. Il n'y en a pas dans tous les territoires, mais les maisons de l'emploi font de l'aide... De l'aide à la création d'entreprises. Donc, faut pas hésiter, pareil, à s'entourer. Il y a plein de monde qui fait ça et qui sont pas assez connus. Et aussi, à Pôle emploi, ils ont des cellules créateurs d'entreprises.
Ouais, on nous cite le BGE, ouais, effectivement, c'est des bonnes
pistes. La BGE, ouais.
Ouais, mais alors, je pense qu'on fera un live sur le sujet, parce qu'effectivement, il y a des trucs à raconter là-dessus. Alors, il y a eu plein de questions, plein de réactions. Il y a une personne qui demande comment on répond à la question ultra bateau. Pourquoi je vous prendrais vous et pas un autre? Qu'est-ce que t'en penses, Mathilde?
Bah celle-là, il faut être honnête. Je vais te répondre quelque chose de bateau aussi. Mais c'est vrai que dans ce moment-là, bah, un profil comme Romain qui va être un petit peu complètement atypique aura plus de choses à dire. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un de très original, je suis multicasquette. Et faut pas hésiter à parler de sa personnalité, dire. Je suis très amicale et je sais que je vais toujours donner un petit coup de main à mes collègues. Voilà. Essayer de parler plus de sa personnalité et de ce qu'on peut apporter à l'équipe si on n'est pas trop sûr de ses compétences. Ou si on a une deuxième casquette, une petite spécialité en plus, c'est de là qu'on peut en parler.
Peut-être okay. Tu pourrais me dire, Mathilde, si ma stratégie est peut-être mauvaise, mais moi, ce que j'ai choisi de faire maintenant, c'est que je me prends beaucoup la tête seule face à mon écran à réfléchir quoi écrire dans ma lettre de motivation. Parce que je fais toujours un duo, moi, CV de lettre de motivation pour quelques candidats, pour que ce soit. Et concrètement, quand il me pose cette question, j'ose imaginer qu'il a pas lu ce que j'ai écrit dans ma lettre de motivation, donc je lui dis. C'est un peu la même chose. Du coup, ça fait que dans mon exercice, j'ai un peu préparé pourquoi tu devrais me prendre moi et pas quelqu'un d'autre, quoi.
Oui, après, même s'il l'a lu, ta lettre de motivation, il va peut-être pas s'en rappeler par cœur.
Oui, voilà.
De toute façon, au moment de l'entretien. Donc, répéter, ce qu'on a mis dans la lettre de motivation, ça peut être sûr de soi, donc pas répéter mot pour mot. Hein. Mais en reparler, en disant, mais en plus, peut-être le rappeler, comme je l'avais écrit dans la lettre, je suis quelqu'un qui est plutôt comme ça, ou j'ai déjà appris à faire ça dans telle entreprise. Ça peut être intéressant de faire comme ça.
Il y a une autre question dans le chat dont on n'a pas parlé encore et que je trouve importante, de Naisala qui dit « Étant une personne racisée, je me demande toujours si je devrais retirer ma photo, étant donné qu'on sait que selon l'origine, on peut être défavorisé à l'embauche. Et ça, effectivement, il y a eu des études sur la question. On sait que les personnes qui ont un nom à consonance étrangère ou une photo qui montre qu'ils ont une origine, ça peut effectivement jouer. Du coup, c'est quoi ton conseil, Mathilde ? Est-ce qu'on met sa photo ? Est-ce qu'on la met pas ?
La photo, elle n'est pas obligatoire à mettre. Elle est même, c'est même interdit de la part des employeurs de l'exiger. Donc après, voilà, si tu tombes sur un employeur qui est raciste, s'il ne te discrimine pas sur la photo, il te discriminera à l'entretien. Donc peut-être que ça peut t'éviter une perte de temps, la photo, je ne sais pas. Mais voilà, la photo, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Après, je sais que moi, je la conseille quand on va sur des salons, sur des gros, gros recrutements ou qui brassent énormément de monde, parce que ça permet à l'employeur de se rappeler de ta tête quand il t'a parlé 5 minutes. Mais voilà, sur la question de la discrimination, ça va être... on peut pas, malheureusement, éduquer les gens. On a peu de possibilités de le prouver quand on est discriminé au moment de l'embauche. Donc, à part se dire, un mal pourra bien, est-ce que tu avais envie de bosser pour un raciste ? Il n'y a pas de solution miracle. Si tu n'as pas envie de mettre la photo ou qu'on te l'exige, il faut savoir que c'est interdit, c'est tout.
Et alors, il y a quelqu'un qui réagit en disant « Mais ah bon, c'est vraiment interdit pour que l'employeur demande une photo ?» Parce que parfois, certains le demandent sur les offres d'emploi comme si c'était obligatoire.
Alors, il y a certains secteurs, comme pour les comédiens ou les choses comme ça, où on peut les demander. Alors après, j'ai pas des textes de loi sous les yeux, donc ça se trouve, j'ai des grosses conneries. Moi, il me semblait que c'était interdit de l'exiger. Après, non, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai déjà postulé à des offres où la photo était obligatoire sans mettre de photo, parce que justement le fait qu'on l'exige, ça m'avait saoulé, et j'avais été reçue quand même. Là, il y a une étude sur les discriminations à l'embauche.
Ah ouais, il y a Marie qui vient de partager dans le chat une étude sur les discriminations à l'embauche. Et il y a Femi Sataniste qui dit « Dans certaines grosses boîtes, ils anonymisent les CV pour minimiser les biais de sélection de profil. » Ouais, parce que je rebondissais un peu sur ce que tu disais, Mathilde, sur le côté « Est-ce que tu as envie de bosser pour un raciste ?» En fait, j'ai l'impression que c'est pas genre « Il y a des employeurs racistes et il y a des employeurs pas racistes. Il y a des employeurs qui sont ouvertement racistes et il y a des employeurs qui sont... plus ou moins racistes et qui en ont pas forcément conscience. Je veux dire que en tant que personne blanche, on est dans un système raciste. Enfin, et du coup, on peut avoir des biais, même parfois inconscients, de l'ordre de l'inconscient. Et du coup, pour moi, c'est quand même plutôt une bonne idée de pas mettre sa photo sur son CV et ensuite de pouvoir comme ça peut-être être retenu en entretien et venir en entretien démonter un peu les préjugés ou les biais qu'une personne pourrait avoir juste en lisant le CV. Mais je sais pas. Et du coup, je trouve ça bien les démarches de certaines entreprises qui font une anonymisation de base, quoi, pour que les recruteurs soient pas justement influencés par leurs propres biais et préjugés.
Ah oui, je suis d'accord avec toi sur ça. En général, moi, quand je dis ça, c'est aux personnes qui ont l'impression d'être discriminées. C'est plus pour les rassurer un petit peu, parce que c'est toujours blessant de dire, voilà, il m'a pas pris juste pour ça. Et c'est toujours, c'est assez violent à prendre de la part des personnes. Donc, j'essaye de. Voilà,
ouais, j'entends, ouais.
De mes yeux, de personnes blanches, justement, qui ne l'a pas vécu, de rassurer un peu les gens et. Après, nous, on essaye de lutter contre ça au maximum. Même en dehors du racisme, on peut se faire discriminer sur un look, un physique, un poids. Et oui, ça, c'est des choses qui existent malheureusement. Et on n'a pas de... Moi, j'ai pas, en tant que conseillère mission locale, de solution par rapport à ça.
À part faire la révolution et...
À part faire la révolution, non, mais... Voilà,
et abolir le patriarcat, le racisme et...
Voilà, non, mais il y a certaines collectivités publiques qui le font, mais en tout cas, alors quand on a des employeurs qui viennent et qui travaillent avec nous, on refuse complètement des offres du style on veut des femmes, on veut des. Ça, c'est des choses qui n'existent pas chez nous. Donc si tu passes par des recrutements qui vont passer par la mission locale à côté de chez toi, normalement c'est safe.
Et Romain, est-ce qu'il y a d'autres questions que tu avais éventuellement pour Mathilde ou d'autres trucs que tu avais envie de partager avec nous ce soir ?
Question envers Mathilde, je demandais un petit peu avant. Petit truc qui m'a aidé moi ces derniers mois, plutôt pour les gens qui habitent en ville, du coup, j'ai remarqué que la région, la métropole et le département m'ont envoyé des courriers ou des magazines, et c'est là où j'ai trouvé moi la plupart des ressources, et ça m'a vachement remonté le moral ces ressources qui m'ont un peu aidé à trouver se former en région, puis après le réseau information jeunesse et ma conseillère d'orientation, et c'est ça qui m'a beaucoup aidé ces derniers mois. Du coup, regardez vos boîtes aux lettres et faites attention entre les pubs, ça peut être cool, on s'y attend pas beaucoup, pour les gens qui habitent en ville, ou peut-être les autres, je sais pas.
Voilà. Peut-être juste à Toulouse, non. Non mais c'est intéressant effectivement de voir qu'il y a des choses qui sont faites sur ce plan-là. Moi je me demandais, Mathilde, si les lettres de motivation ça servait encore à quelque chose, si les recruteurs les lisaient, ou si on pouvait se contenter de faire un petit mail de motivation.
Tu peux faire un petit mail de motivation, il y a des fois sur certaines offres c'est exigé. Alors quand tu fais de la candidature spontanée par exemple, comme fait Romain à faire le tour des magasins, ça peut être bien de mettre une lettre de motivation à condition que c'est pas un modèle pris sur internet photocopié sur lequel il n'y a même pas le nom de l'entreprise. Ça, c'est assez fréquent sur la candidature spontanée. Donc c'est soit, moi ce que je conseille aux gens de faire, c'est d'aller déposer les CV, et quand l'employeur réclame une lettre de motivation, là on va en écrire une. Parce que les lettres de motivation, en fait, c'est pas que l'employeur va pas la lire, c'est qu'il va la lire en diagonale. Donc à partir du moment où il va voir la même phrase que dans toute lettre de motivation, il va pas la lire.
Et après, j'avais une autre question aussi, mais plutôt sur le côté financier. Peut-être que ça va t'intéresser, Romain. On a parlé de la garantie jeune. On peut bénéficier du RSA à partir de 25 ans. Est-ce qu'il y a d'autres aides financières? Notamment, je pense, quand tu dois te déplacer pour aller à un entretien. Est-ce que tu peux avoir de l'aide de Pôle emploi ou de la mission locale? Comment ça se passe?
Alors, moi, j'ai parlé au nom de Lille, du coup.
Ouais. Ah oui, c'est tu penses que c'est différent selon
Nous, en tout cas, on a une aide mobilité qui vient de la métropole de Lille. Donc, c'est vraiment spécifique pour les personnes qui sont lilloises. C'est la métropole qui donne, donc qui soit finance des abonnements de transport pour effectuer ces démarches, soit, moi, j'ai déjà fait financer des billets de train pour une personne qui avait un entretien à Paris, voilà, il y a possibilité de faire ça. Mais ça, voilà, alors doit y avoir la même chose dans d'autres villes, d'autres territoires. Hein. C'est juste que du coup, je les ai pas en tête. Mm. Mais ça existe des aides mobilité pour ça. Il y a certains endroits où il y a des possibilités d'avoir des aides au permis. Et ça, c'est pareil, toujours sous condition qu'il y ait de l'argent, sous condition que soit dans ton territoire une problématique, le permis. Enfin voilà, c'est. En fait, c'est des questions qui sont assez compliquées à aborder dans quelque chose d'aussi global, parce qu'on va avoir des gens qui viennent d'un peu partout. Et moi, mes réponses, elles vont être très locales.
Ouais, mais donc, du coup, ça vaut le coup de poser la question à sa mission locale.
Ça vaut toujours le coup de poser la question.
Ouais, ouais, ou à Pôle emploi. Et de pas se. Que ce soit pas un obstacle, quoi. De se dire, oh là là, c'est dans une autre ville ou c'est dans une autre région. Bon, bah, je le tente pas. Si vous avez envie de changer de région, vous pouvez avoir des aides pour pouvoir aller passer des entretiens. Et ça me fait penser que en ce moment, il y a pas mal d'entretiens qui se font à distance, Covid oblige, et en visio, et c'est un peu, alors pas dans le commerce comme dans le cas de Romain, mais dans d'autres secteurs d'activité, c'est le cas. Comment on fait un entretien en visio pour que ça se passe bien? Est-ce qu'on peut être en pyjama en bas?
Faut juste pas se lever au milieu de l'entretien.
Ouais, donc c'est un piège, méfiez-vous. Peut-être que les recruteurs vont vous demander un truc ou qu'il y aura du bruit, il faudra fermer la porte.
Attention à ça. Ouais, ouais, faut s'assurer d'avoir une bonne connexion aussi, d'être bien équipé. Et puis, si on n'est pas bien équipé, il y a des assos qui aident. Il y a Emmaüs Connect qui existe et qui aide à s'équiper, surtout maintenant pendant le confinement, ils sont super actifs. Et Emmaüs Connect, ils sont partout en France, là ça va. Donc eux, ils aident à s'équiper au niveau informatique, ça peut être pas mal, parce que si on a que son téléphone portable pour passer ses entretiens, c'est peut-être pas toujours confortable. Après, faut faire attention à ce qu'on voit derrière nous, faut faire attention, voilà, si on vit en coloc, peut-être prévenir ses colocs avant, au bruit qu'il peut y avoir autour, ça va être surtout ça le plus important lors d'un entretien en visio.
Alors, il y a Sunplay63 qui dit: vous avez pas parlé de la posture à avoir lors d'un entretien, et je trouve ça important. Ouais, par exemple, tenez-vous bien, pas comme ça, non.
Ouais, exactement, on se tient droit. Oui, il faut faire attention au niveau de la posture. Bah, sur internet, on peut trouver pas mal de fiches, hein, parce que du coup, il y a des petits dessins, c'est super intéressant. Il y a donc tout ce qui s'appelle la communication non verbale. Donc, faire un peu de recherche là-dessus, ça peut être intéressant. Si on met ses bras comme ça, ça veut dire qu'on est fermé. Il faut faire attention de ne pas s'affaler sur la table, de ne pas mettre la main. Tout ça.
Je suis hyper professionnelle.
Voilà. Alors que le recruteur risque très fortement de se mettre comme ça.
Hein. C'est clair.
Et non, c'est, voilà, on se tient droit, comme sur un fil, comme on apprend à l'école des jeunes filles. On se tient bien droit, on regarde la personne dans les yeux surtout. Et si on a du mal à regarder dans les yeux parce qu'on n'a pas trop confiance en soi, on regarde le petit point de son front là. C'est la triche.
Là, on regarde.
Juste là, on regarde là. Et comme ça, tu ne regardes pas vraiment dans les yeux. Ça permet de tricher un petit peu et de ne pas avoir trop peur du regard du gros PDG en face de soi, très impressionnant. Faut faire attention, ouais, pas hésiter, faut mettre, poser ses mains sur la table, pas les cacher comme je viens de faire. Et pas secouer son genou comme un gros énervé.
Et sourire, c'est pas mal aussi.
Sourire, c'est très bien. On met pas sur son CV ou sa lettre de motivation qu'on est souriant. On sourit le jour de son entretien.
Encore plus dans le commerce, j'imagine.
Encore plus dans le commerce, et je pense que ça, c'est valable partout. Je pense que quelqu'un qui fait la tronche, personne n'en veut.
Ce qui est un peu, ce qui est un peu injuste, hein, parce que moi, par exemple, quand je ne souris pas, on dirait que je fais la gueule, alors que non, c'est juste ma tête normale.
Oui, alors après, oui, si tu fais juste une tête un peu sérieuse, ça va. Mais si tu es comme ça, avec un air boudeur, ce sera moins bien vu.
Il y a Asiatics qui demande dans le chat il dit aujourd'hui il y a des tas de sites d'emploi qui existent, mais comme il y en a trop, on ne sait plus trop sur lesquels on peut se concentrer. À quel site d'emploi on peut se référer. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se perdre un peu, à multiplier les alertes, et du coup à se noyer un peu dans les candidatures. Qu'est-ce que tu recommandes ? Alors, il y en a dans le chat qui donnent des conseils. Les sites spécialisés en fonction de ce que tu cherches.
C'est vrai que les sites spécialisés, c'est pas mal. Pareil, ça va dépendre des secteurs. Si on va pas chercher au même endroit, si on veut être agent d'entretien, que si on veut être chargé de communication. Et c'est vrai que les sites spécialisés, c'est peut-être pas mal. Il y a, par exemple, le site Welcome to the Jungle, qui est quand même pas mal, où il y a pas mal de choses dedans.
Plutôt web, médias.
C'est très pertinent. Qu'est-ce qu'on a après ? Il y a les sites Indeed, le site de Pôle emploi, quand on va rechercher des choses plus dans le commerce, des métiers un petit peu plus... un petit peu moins qualifiés, ça va être peut-être sur le site de Pôle emploi. Il y en a quand même pas mal, hein. Sur Indeed, après, voilà, c'est, faut voir un petit peu là où aussi le site sur lequel on est à l'aise. Parce qu'il y a certains sites où il faut s'abonner. Donc, peut-être se dire, voilà, moi, je me concentre sur tel site. Et après, bon, c'est pas grave, si on n'est pas sur tous, on peut pas être sur tous les fronts.
Il y a cette Inès qui dit que c'est compliqué le sourire avec le masque. C'est vrai. Et effectivement.
Il se voit sur les yeux.
Ouais. Il faut apprendre à sourire avec les yeux. Est-ce que, Romain, tu as appris à sourire avec les yeux quand t'allais déposer des CV?
Moi, compliqué de sourire avec le masque, je trouve pas ça particulièrement vrai, parce que je sais pas, j'arrive bien à voir quand les gens ils sourient ou pas derrière le masque, avec le reste du visage, je sais pas, ça s'entend beaucoup le sourire, je trouve aussi. Donc, j'ai pas particulièrement changé d'attitude et je me rends compte quand les gens, quand je vais poser des CV, très très vite ils sont en mode non. Va-t'en, hein. Je suis en mode, ok, je m'en vais. Et d'autres fois, ils sont en mode, oh, ok, il le prend, il le regarde et tout, et il me sourit en mode, merci de l'avoir posé, ou tu m'as fait sourire, je sais pas. Enfin, la vibe se sent même à travers le masque, je trouve. Vu que j'ai fait pas mal d'entretiens aussi, avant pour mes stages surtout, en visio, ou même au téléphone, ça s'entend beaucoup le sourire, donc je sais pas. Enfin, ça va, quoi. Je trouve le game du masque n'a pas changé grand chose, en tout cas pour moi. C'est toujours pareil.
J'en profite pour digresser, puisque Marie m'a dit que j'avais le droit de digresser sur ce live. Moi, j'ai une petite fille qui a 9 mois, donc qui est née pendant le premier confinement. Et en fait, elle ne voit que des adultes masqués, à part son père et moi, depuis sa naissance. Et donc pour elle, c'est genre sa normalité. Et elle arrive hyper bien, comme tu dis, Romain, à repérer quand les gens lui sourient ou pas derrière leur masque. Vraiment, c'est fascinant dans la rue, quand quelqu'un s'approche d'elle et lui sourit, elle lui sourit en retour, quoi. Alors qu'elle voit pas son sourire, ça me fascine. Voilà.
C'est parce qu'elle le voit. Même si elle voit pas sa bouche, elle voit son sourire, c'est pas que la bouche.
Ouais. Du coup. Mais du coup, je me dis, est-ce que ça va faire donner une génération qui saura sourire uniquement avec les yeux ? Enfin bon, bref. c'est mes questions.
Ça s'arrêtera de regarder les dents et...
Ouais, c'est ça. Alors, il y a Sadinès qui demande, quelle place pour LinkedIn dans la recherche d'emploi ? Alors, on en a un petit peu parlé en disant que c'était une bonne ressource pour aller spotter des gens dans les entreprises et pour pouvoir plus cibler ces candidatures. Mais est-ce que ça sert à autre chose ?
Mais il y a pas mal d'offres d'emploi sur LinkedIn, ouais, c'est pas mal. Après, faut pas trop. Enfin voilà, ça reste un réseau social, donc il faut pas trop se perdre dans les méandres de ça, pas que ça devienne anxiogène.
Exactement, voilà, ça. Faut pas que ça devienne anxiogène.
C'est devenu anxiogène pour toi,
au maximum, comme tout réseau social. Si ça devient anxiogène et que ça vous bloque, comme moi, partez.
Ouais. C'est ça. Ça, parce qu'en plus, sur LinkedIn, je trouve qu'il y a un peu une injonction au bonheur au travail, à la bienveillance, c'est vite un peu lourd.
C'est un game bizarre. Voilà. Ouais. Et par contre, si vous êtes pas mal à l'aise, passez-y toutes vos journées, du coup. Parce que j'avais des potes qui, ça va très bien, la vibe LinkedIn leur correspond. Ils arrivent bien à mettre le masque LinkedIn. Moi, je trouve qu'il faut mettre un masque quand on va sur ce site internet ou quand on parle à des gens à travers ce site internet. Essayez, et si ça vous correspond, tant mieux, mais moi je peux pas.
Moi, ça dépend des jours de la semaine, quoi. Genre, le lundi, ok, je peux être LinkedIn, mais le vendredi, non, c'est pas possible.
Ah, moi, c'est plutôt l'inverse. C'est
ah ouais
voilà, quand je suis un peu lasse de ce que je suis en train de faire, j'allais faire un petit tour sur LinkedIn, c'est quand même du travail.
Je sais pas si. Romain, t'avais peut-être une dernière question pour Mathilde, ou si dans le chat vous avez quelques dernières questions, on va les prendre, mais après on va vous laisser.
Non, c'est bon pour moi.
Ouais, on avait fait le tour de tes questions. Bah, bon courage en tout cas, bon courage à toi, bon courage à Laure. Merci à tous les deux d'être venus nous raconter là où vous en étiez, nous parler de votre vécu. Je pense qu'il y a plein de gens qui vivent la même chose que vous, en fait. Vous n'êtes pas seuls, même si vous avez été les seuls à parler ce soir. Voilà. Les gens vous écoutaient et ressentaient la même chose.
Merci beaucoup.
Ouais. Et merci beaucoup à Mathilde d'être venue faire ce live. C'était super.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Et merci à vous tous d'avoir suivi, d'avoir posé des questions, d'avoir réagi, c'était trop cool. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve bientôt. Je n'ai pas encore la date, mais on vous la donnera sur le site de Mademoiselle. On fera un deuxième live, mais qui s'adressera moins spécifiquement aux gens qui cherchent un premier emploi, plutôt aux gens qui veulent se reconvertir ou qui veulent changer de job. Enfin voilà, plutôt des gens qui ont déjà quelques années d'expérience professionnelle derrière eux ou derrière elles. Et on vous donnera d'autres conseils. Alors, je pense pas que ce sera avec Mathilde, ce sera avec d'autres personnes, mais ce sera très chouette aussi. Et je vous rappelle à tous et à toutes que on stream sur la chaîne Twitch de Mademoiselle les mardis et les jeudis. Les mardis, c'est du gaming, et les jeudis, c'est des discussions plus blabla, société. Voilà, ça peut être des trucs très pratiques comme ce soir, ou des trucs plus de réflexion, d'analyse. Voilà. Merci à tous et bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée.